un peuple qui avait expérimenté Dieu, qui avait goûté Dieu, qui avait témoigné des miracles de Dieu dans leur vie, un peuple qui était dirigé par Dieu, mais un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Un peuple qui est tombé souvent dans la condition de satisfaction, dans la condition de autosuffisance, n'est-ce pas? Être autosuffisant. On a tout, on est rempli, on est rassasié et on n'en a plus besoin. Et donc, Dieu est venu encore et encore pour dire à son peuple, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez mes actes, mais vous ne connaissez pas mes voies. Vous ne savez pas qui je suis. Et pendant le désert, 40 ans, c'était une période de connaissance. N'est-ce pas? Une période de fiançailles, comme on a dit, qu'on a lu dans Jérémie. N'est-ce pas? C'est là où Dieu s'est fiancé avec son peuple. Période où le peuple de Dieu devait connaître son époux, son futur époux. Vous voyez, les fiançailles, ça dépend, n'est-ce pas? Ici, je ne sais pas, est-ce que c'est une longue période? Ça dépend de chaque personne, n'est-ce pas? Parfois, ça peut être une longue période. D'autres fois, ça peut être très court. N'est-ce pas? Avec ma femme et moi, c'était une période courte. Pas 5 ans, 6 ans. Non, c'était 4 mois. Mais on se connaissait avant. Mais on s'est fiancé et puis on s'est marié 4 mois plus tard. Mais quoi que ce soit une longue période ou une période courte, c'est une période de se connaître, n'est-ce pas? Et Dieu a vraiment apprécié cette période. Il a dit que ça, c'était tes premiers amours, n'est-ce pas? Je me souviens de ton premier amour. Voyez, c'est quoi le premier amour? Le premier amour, ce n'est pas comme nous le pensons. Nous le pensons que le premier amour, c'est quand j'ai aimé le Seigneur pour la première fois, n'est-ce pas? Tout au début. Mais si ça c'est le cas, quand j'ai aimé le Seigneur, quand, n'est-ce pas, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 5 ans, on ne peut jamais retrouver ce sentiment. Ce n'est pas une question de retrouver le même sentiment qu'on avait. Mais c'est quoi le premier amour? Le premier amour, c'est un amour frais. C'est un amour pur. Ce n'est pas le sentiment. Avec ma femme maintenant, n'est-ce pas, quoi? C'est 25 ans. Ce sera 25 ans. Ah oui, le jubilé d'argent, n'est-ce pas? 25 ans plus tard, on ne peut pas retourner en arrière pour retrouver les sentiments, n'est-ce pas, de quelqu'un de 30 ans, parce que nous avions 30 ans quand nous sommes mariés. Maintenant on a, n'est-ce pas, 55 ans. 25 ans plus tard, on ne peut pas retrouver le même sentiment, mais l'amour peut être aussi frais qu'il était au début. C'est ça là, quand le Seigneur parle du premier amour en Jérémie et aussi dans Apocalypse, n'est-ce pas, à l'église à Éphèse, j'ai ceci contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. C'est l'amour frais, l'amour ardent, l'amour pur pour le Seigneur. Pas forcément la façon de l'exprimer. Ça peut changer. N'est-ce pas? Parce qu'on croit, n'est-ce pas? Alors, je vous donne un exemple, n'est-ce pas? Quand nous sommes jeunes, quand vous êtes jeune, par exemple, si vous êtes jeune, vous connaissez le Seigneur depuis, peut-être pas depuis trop longtemps. Tout ce qui vous arrive, le Seigneur est là. Le Seigneur est impliqué, n'est-ce pas? Par exemple, vous perdez quelque chose. Moi, j'ai eu cette expérience. Vous perdez quelque chose, vous priez le Seigneur et vous retrouvez la chose. Ben, c'est incroyable, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup d'expériences. Je cherche un stationnement, n'est-ce pas? Je suis en train de rouler, de circuler et il n'y a pas de stationnement. Je ne peux pas garer ma voiture. Je prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi un stationnement. Et miraculeusement, il y a un stationnement qui s'ouvre. Ah, oui. Parfois, même pour un examen, vous priez le Seigneur. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, donne-moi, fais que je réussisse à cet examen. Et peut-être que vous n'avez pas trop étudié. Mais, n'est-ce pas, vous, voilà, le Seigneur est réel, n'est-ce pas, et il vous connaît. Et donc, il se donne à vous, là où vous êtes, selon votre niveau de croissance. N'est-ce pas, ça on peut dire, l'amour est très frais, très pur, vous voulez le Seigneur vous, il veut vous aider. Et il vous aide, n'est-ce pas? Et il est magnifique. Il est mon Seigneur. Mais vous croissez, vous avancez un peu. Et ça devient plus difficile de trouver ce stationnement. Ça devient plus difficile de réussir à cet examen pour lequel vous n'avez pas étudié. Vous voyez, le Seigneur, c'est comme si il se retirait. Il se retire. Peut-être que vous priez encore au Seigneur. Donne-moi ce stationnement. Le Seigneur dit non. Alors vous continuez à rouler. Le Seigneur, parce que pourquoi? Parce que vous croissez. Et au fur et à mesure que nous croissons, il y a certaines choses, il y a certaines expériences que nous n'expérimentons plus. Parce que le Seigneur n'est plus là. Quand nous étions jeunes, le Seigneur était là. Mais maintenant, nous ne sommes plus jeunes. Le Seigneur n'est plus là dans ces choses. Mais il est là, n'est-ce pas, avec nous, pour que nous le connaissions. Donc, si notre amour est aussi frais, nous allons expérimenter le Seigneur, mais d'une manière différente. Ce ne sera pas les mêmes expériences. Et il va même sembler que le Seigneur est plus sévère. Il est plus sévère au fur et à mesure que nous avançons. Nous n'obtenons pas les mêmes choses que nous obtenions avant. Parce que le Seigneur, il veut que nous avancions. Si nous restons dans ces choses, dans ces expériences, ces choses-là deviendront des jouets. Vous voyez, pour un enfant a besoin des jouets. Ça c'est, parce que ça c'est, n'est-ce pas, c'est un enfant. C'est très normal. Mais pour un adulte, n'est-ce pas, non, plus de jouets. Mais le problème, c'est que nous voulons toujours les jouer. C'est-à-dire que nous voulons les mêmes expériences que nous avions avant. Et le Seigneur est en train de nous dire, non, 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 avance, avancez. Moi, je ne suis plus là dans ces choses. Ah, mais je me souviens du bon vieux temps, n'est-ce pas? Quand, Seigneur, quand je t'aimais éperdument. Non, je me rappelle ces jours-là. Quand j'étais jeune, j'avais touché le Seigneur, je sortais dans le champ là à l'université et je me couchais sur le terrain de football là et je regardais les nuages. Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Parce que tu as dit, n'est-ce pas, que tu vas revenir avec les nuages. Seigneur, ah, comment est-ce que ce sera? N'est-ce pas, comment sera-t-il? Comment est-ce que tu vas vraiment apparaître? Tu es un homme, donc tu vas descendre en tant qu'un homme sur les nuages, n'est-ce pas, Seigneur? Je suis prêt, n'est-ce pas? Voilà. Non, des expériences précieuses, n'est-ce pas? Moi, entre moi et le Seigneur. Bon. Ok. Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus le faire? Non. Mais je vous dis, si je le faisais, le Seigneur me dirait, lève-toi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais par terre? Il y a du travail à faire. Il y a une œuvre que tu... Bon. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons plus avoir ces expériences. Non, non, non. Mais je veux dire que nous progressons. N'est-ce pas? Dans notre marche avec le Seigneur, il y a une progression. Et c'est au fur et à mesure que nous progressons que le Seigneur va se révéler à nous nouvellement, d'une manière fraîche. Maintenant, beaucoup de mes expériences du Seigneur sont par rapport à mon mariage. Mon mariage et ma famille, n'est-ce pas, et les frères et les sœurs dans la vie de l'Église. Mais surtout avec ma famille. Et parce que le Seigneur est en train de me former, de me perfectionner. Le Seigneur veut nous perfectionner. Le Seigneur ne veut pas que nous restions dans un état, une condition de quoi? Des enfants avec des jouets. Ça, c'est normal, c'est nécessaire, mais éventuellement, quand Paul le dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Maintenant, quoi? Je suis, n'est-ce pas, adulte. Ah, je laisse tomber les choses d'enfant, n'est-ce pas, les choses enfantines. Donc, comment est-ce que nous pouvons continuer? Comment est-ce que nous pouvons croître? Ça, c'est un peu le fardeau de cette conférence, n'est-ce pas, ou ce temps ensemble. Et les enfants d'Israël devaient apprendre à continuer. Parce que chaque fois qu'ils s'arrêtaient, ils se sont trouvés en captivité. Vous voyez? Et donc ça, c'est un peu le thème, n'est-ce pas? La captivité, on en a parlé beaucoup. Ceux qui sont ici pour la première fois, la captivité. Ne pensez pas que la captivité, c'était quelque chose qui est arrivé à la fin, n'est-ce pas? Où le roi de Babylone est venu amener captifs les enfants de Juda pour 70 ans. Non, la captivité a commencé bien avant. Et nous avons tracé un peu n'est-ce pas, à partir de Abraham, enfin, à partir d'Adam et Ève, mais tout au long, pour voir comment l'homme a été capturé, comment l'homme a été amené captif. Et que Dieu veut des vases. Dieu veut des vases. N'est-ce pas? Pour quoi? Pour qu'ils le connaissent. Des vases qui sont prêts à le connaître. Et des vases qui sont prêts à abandonner leurs propres moyens, leurs propres méthodes. Et de prendre la voie de Dieu. De prendre, n'est-ce pas, le chemin de Dieu. Où sont ces vases? Bon, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, n'est-ce pas, David. Mais éventuellement, Dieu veut un vase corporatif. Il veut l'Église. Il veut un homme. N'est-ce pas? L'homme qu'il a créé au début, Adam, un homme corporatif. Mais le premier homme, n'est-ce pas, n'a pas réussi. Donc, le dernier homme, Christ, est venu. Et lui, n'est-ce pas? Donc, lui, c'est cet homme. Qui est le vase corporatif? C'est Christ. Donc hier, nous avons vu que tout ce que Dieu veut, c'est Christ.
Amen.
Tout ce qui sort de Dieu est Christ. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons doit être Christ. Tout ce que nous cherchons doit être Christ. La connaissance de Christ, l'expérience de Christ, la personne de Christ. La mentalité de Christ,
amen.
Les pensées de Christ,
amen.
Les sentiments, les émotions de Christ,
amen.
Tout ce que nous cherchons doit être Christ. Et voilà pourquoi ce matin, j'ai donné un peu une introduction. C'est les expériences passées étaient Christ, mais actuellement, est-ce que c'est Christ? Est-ce que je cherche Christ? Est-ce que je poursuis Christ? Est-ce que ce que je fais dans l'Église est Christ? Vient de Christ et a Christ comme objectif? Oui, donc ça c'est le fardeau. Hier, je donne un peu de quoi? De récapitulation, n'est-ce pas? Je récapitule un peu. Nous avons parlé, nous avons touché Babylone. Qu'est-ce que c'est que la Babylone, n'est-ce pas? Babylone, éventuellement, n'est-ce pas? Ça commence avec Babel, la tour de Babel dans la Genèse 11. Et ça a sa consommation dans Apocalypse. Chapitre 17 et 18 avec la grande Babylone, mystère, la Babylone la grande. Mais qu'est-ce que c'est que la Babylone? La Babylone, c'est quoi? C'est tout ce qui sort, tout ce qui n'est pas Christ. La Babylone, c'est effectivement un mélange de Dieu et de l'homme. Quelque chose de Dieu et quelque chose de l'homme. Et l'homme qui vit sa vie pour Dieu, croyant, qui satisfait Dieu avec quelque chose de Dieu, mais ne se rendant pas compte qu'il manque Dieu, est content de poursuivre suivre son chemin. Ça, c'est Babylone. Et Babylone peut être en nous. La maladie, n'est-ce pas, de Babylone peut être en nous. Si nous pensons que nous allons assez bien, nous avons le Seigneur, nous avons l'Église, nous avons un peu la parole, nous avons toutes les choses chrétiennes, nous sommes assez bien. Ça peut être Babylone. Babylone vient, n'est-ce pas, pour... Qu'est-ce que dans la Genèse 11, ils ont fait une tour, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour atteindre Dieu, mais pour se faire un nom. Vous voyez, atteindre Dieu, mais se faire un nom. Ah, et c'est moi qui atteins Dieu. C'est moi qui veux arriver à Dieu. Mais Dieu veut nous atteindre. Dieu veut œuvrer en nous. Dieu veut nous gagner. Alors, donc la question c'est, est-ce que nous pouvons permettre à Dieu d'œuvrer en nous? Est-ce que nous pouvons permettre à Dieu de nous gagner? De gagner toute notre âme? D'être ouvert à lui? De lui dire, Dieu, me voilà. Je ne sais pas qui tu es. Et je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Éclaire-moi. Oui, mais c'est difficile à dire. Quand nous ne savons rien, c'est facile. Quand nous savons beaucoup de choses, ça devient plus difficile. Même, nous pouvons dire les mots. Mais à l'intérieur, moi, je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment il faut parler. Et ça, c'est le danger. Il vaut mieux ne pas savoir comment faire les choses. Parce que quand vous savez comment les faire, vous n'avez besoin de rien. Et même si vous dites, non, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'être aidé, non. Mais secrètement, n'est-ce pas, oui, apparemment, vous êtes ouvert, mais secrètement, même si vous recevez quelques conseils, vous savez très bien comment les mettre sur l'étagère, n'est-ce pas? Après, pour le moment, je le garde là et je continue. Parce que, essentiellement, je sais comment me débrouiller dans la vie chrétienne. Et j'ai toujours peur de ça. Donc, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Plus nous avançons, plus nous avons besoin du Seigneur. Plus nous avançons, plus nous ne savons pas comment suivre le Seigneur. Mais le problème, c'est que normalement, très très souvent, plus nous avançons, plus nous savons comment faire les choses. N'est-ce pas? Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous savez quoi dire. Il y a certains principes, n'est-ce pas? Il y a certaines choses qu'on dit. Et moi, souvent, je me trouve dans cette situation où je sais. Et le Seigneur veut nous avertir. Non, vous ne savez pas. Nous ne savons pas. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de le chercher à tout temps. Donc, n'arrivez jamais à un moment, à un stade où vous dites « Ah, je sais comment le faire. Je sais quoi faire. Je sais de quoi j'ai besoin. » Donc, David, on a parlé de David, n'est-ce pas? David était quelqu'un qui était très très ouvert aux autres. Il s'est fait entourer des gens, de ces hommes, n'est-ce pas? Des prophètes. Et à tout moment, il était ouvert à la correction. Il était ouvert à la modification. Pas facile, un roi comme lui, de se mettre dans cette position, d'écouter un prophète, d'écouter un homme, c'est pas, d'écouter Nathan. Mais qui était Nathan? Nathan, oui, un prophète de Dieu, mais... De quel statut, de quelle position, de quel... Qui était-il? Vous voyez, David avait cette réalisation. J'ai besoin des autres. J'ai besoin... Moi, je ne peux pas suivre le Seigneur moi-même. J'ai besoin des autres. Et donc, lui, il s'est entouré de beaucoup de gens qui osaient, qui pouvaient le conseiller, qui pouvaient l'aider à retrouver le Seigneur. Salomon, par contre, son fils, avait tout. On a passé au moins une journée, n'est-ce pas, pour considérer Salomon. Salomon, toutes les richesses, toute la sagesse. Qui osait le toucher? Même si, je pense qu'on a essayé. Parce que Dieu a dit à Salomon, tu ne m'as pas obéi, je t'ai averti. Probablement, Dieu avait averti Salomon par les prophètes, des gens qui... Mais comment est-ce que Salomon allait écouter Gad, Nathan, n'est-ce pas, un homme qui avait tout, un homme qui pouvait parler de tout, un homme qui avait même prié la prière la plus merveilleuse, n'est-ce pas, oui. Un homme qui avait écrit au moins trois livres de la Bible, n'est-ce pas, et même des psaumes. Et il y a un prophète qui vient lui dire, toi, tu as péché, tu t'es éloigné de Dieu. Ah, mais qui es-tu de me dire que je me suis éloigné de Dieu? Moi, j'ai écrit Cantique des Cantiques. J'ai écrit Ecclésiaste, Vanité des Vanités, tout est vanité. N'est-ce pas? Alors, personne ne pouvait le toucher. Mais David, on pouvait le toucher. On pouvait l'instruire. Et donc, ça c'est un peu pour nous, n'est-ce pas? Nous ne savons pas, est-ce que nous savons quoi faire? Est-ce que nous savons comment avancer? Est-ce que nous savons quelle est la prochaine étape? Non. Nous devons chercher le Seigneur, trouver le Seigneur. Ah. Et quand vous êtes forcé à... Quand vous êtes dans une situation ou vous ne savez pas quoi faire, vous allez chercher le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Je vous ai parlé un peu de mon expérience, n'est-ce pas, en servant le Seigneur. On devrait dire que ça devient plus facile avec l'expérience. Mais non, ça ne devient pas plus facile. Ça devient plus difficile. Vous voyez, moi, j'espère, souvent je dis au Seigneur, ou je dis à ma femme, j'espère, moi je souhaite que ça devienne plus facile. Parce que maintenant, on n'est plus jeune, n'est-ce pas? On n'est plus. On n'est pas comme on était avant. Maintenant, on a, n'est-ce pas, bon, 55 ans, on aura 56 ans, on aura 60 ans, on aura 65 ans. On a le droit de, n'est-ce pas, d'avoir un peu de paix, un peu de tranquillité dans notre vie chrétienne. N'est-ce pas? Autrement dit, on a le droit de prendre sa retraite. Oui, à l'âge de 55 ans, dans certaines compagnies, certains secteurs, 55 ans, 59 ans, n'est-ce pas? C'est, ça s'approche, l'âge de la retraite. Vous voyez? Donc, est-ce que je peux prendre ma retraite? Mais au contraire, c'est comme si notre vie de servir le Seigneur, c'est comme si on commençait dès le début. On est, n'est-ce pas, certaines choses ont été un peu renversées, un peu, changées, n'est-ce pas? Et ma femme me dit souvent aussi, elle dit que moi, elle aussi, elle veut. Maintenant, nos enfants sont un peu, n'est-ce pas, ils sont indépendants. Nous, on a le droit, n'est-ce pas, de jouir un peu du reste de notre vie. Voilà. Nous avons, voilà, je parle un peu. Selon le monde séculaire, n'est-ce pas? Mais nous avons payé, on a payé nos dettes. N'est-ce pas? Quand vous payez quelque chose ou vous rendez service, vous servez, vous êtes dans le monde, n'est-ce pas? Vous êtes, vous avez le droit de récolter le fruit, n'est-ce pas, de votre service. Oui. Mais le Seigneur, il est très intéressant. Il est très romantique. Il est très. Il est plein d'humour. Il est humoristique. Et il est aussi sévère. Semble-t-il, n'est-ce pas? Il est. Alors, souvent, il y a le verset qui me revient souvent maintenant, le passage du serviteur qui avait servi tout le monde. Il avait servi dans le champ. Et quand il rentre à la maison, n'est-ce pas? Ben, il a servi toute la journée, donc c'est l'heure de manger. N'est-ce pas, de se reposer un peu. Et le Seigneur dit non, mais il ne va pas se reposer. Il va d'abord servir son maître. N'est-ce pas? Et même après avoir tout fait, qui est-il? Oui, serviteur inutile. N'est-ce pas? Donc, où sont les fruits du succès? Où sont les fruits de son travail? À vrai dire, il y a des fruits. Mais ce n'est pas comme nous le pensons. Ah, le fruit, c'est le Seigneur lui-même. Le fruit de son travail, c'est de servir le Seigneur. C'est ça, le fruit. Le fruit de son service, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas la retraite, ce n'est pas les bénédictions, ce n'est pas les bienfaits du Seigneur, mais c'est le Seigneur lui-même. Donc, l'esclave, n'est-ce pas, dans Exode, celui qui avait le droit et la liberté de se libérer, de fuir, de partir après 7 ans de servitude, de service, celui qui choisit de dire qu'il va rester, qu'est-ce qu'il dit? J'aime mon maître. Je ne sortirai pas, n'est-ce pas? Je ne serai pas libre. Aucun fruit, aucune retraite, mais c'est le Seigneur, le Maître lui-même. Donc, ça c'est, voilà un peu, n'est-ce pas, nous, notre vie, notre vie de servir le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et au début, quand nous avons commencé à servir, quand j'ai commencé à servir le Seigneur avec ma femme, nous étions clairs. Au début, nous avons réglé les choses. Nous avons que, quoi qu'il arrive, Seigneur, nous serons fidèles à toi. Nous n'aurons jamais de regrets. Parce que c'est toi que nous servons. La situation peut changer, l'environnement peut changer, notre service peut changer, mais nous sommes clairs que c'est toi que nous servons. Donc tout peut changer, mais toi tu ne changes pas. Donc nous dirons jamais, ah, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, ou pourquoi est-ce que le Seigneur nous a dirigés, ou... Non, c'est cette question a été réglée au début, n'est-ce pas? Donc c'est bien de régler des choses tout au début de notre vie chrétienne. Si vous croyez au Seigneur, vous êtes nouvellement sauvé, il faut régler ça. Le Seigneur est votre Seigneur. Amen. Et vous ne l'abandonnerez jamais. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la situation change, n'est-ce pas? Votre environnement change, vous changez, mais vous aurez le Seigneur. Seigneur, vous ne vous séparerez pas du Seigneur. Ça doit être réglé au début. Parce que vous, le Seigneur est votre Seigneur. Vous connaissez le Seigneur vous-même. Ce n'est pas le Seigneur de vos parents seulement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a amené au Seigneur. Donc vous croyez au Seigneur. Non, vous croyez au Seigneur vous-même. Et personne ne peut vous dire le contraire. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai cru au Seigneur, ou j'ai fait ça pour le Seigneur parce qu'on m'a demandé de le faire. Non, non, non. On ne vous a pas demandé le... Vous l'avez fait parce que vous avez... Parce que c'est le Seigneur. Autrement, le Seigneur sera très, très loin. Il y a des moments où le Seigneur sera très, très loin de nous. Si nous vivons notre vie comme ça, on m'a demandé de le faire. Donc je l'ai fait. Quand j'entends ça, je me sens pas bien. Parce qu'il y a de l'amertume là, n'est-ce pas? On est déçu. J'ai fait quelque chose et voilà le résultat, ou voilà ce qui m'est arrivé. Et je dis, Où était le Seigneur dans tout ça? Où était ton Seigneur? Oui, tu l'as fait parce qu'on t'a dit de le faire. Ça veut dire que tu ne connais pas le Seigneur. Non, connaissez le Seigneur. Le Seigneur doit être votre Seigneur. N'est-ce pas? Il doit être. Ce n'est pas le Seigneur seulement de vos parents. Ce n'est pas le Seigneur de vos amis. Non, c'est il est votre Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, tu es mon Seigneur, parce que je t'ai vu, je t'ai expérimenté, tu m'as parlé, et ça, je ne peux jamais oublier. Quoi qu'il arrive, tout au début, il faut régler ça, conclure, n'est-ce pas, sceller ça. Autrement, vous aurez des ennuis, vous aurez des problèmes et vous ne serez pas solide dans la foi chrétienne. C'est-à-dire que votre avancement, votre vie avec le Seigneur va flotter. Donc ça, c'est un peu mon souci aussi. Quand je vois les jeunes, je vois mes enfants, n'est-ce pas, à Chicago, ils doivent connaître leur Seigneur. Le Seigneur doit être réel. Donc, voilà un peu mon cœur, n'est-ce pas? Donc, revenons au message. Lisons quelques versets. Ce matin, et ce qu'on va aborder ce matin, aujourd'hui, est relié à ce que je vous ai partagé concernant la terre, concernant le sabbat. Donc c'est message 2. Ok. Donc est-ce que nous pouvons lire Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, verset 1 au verset 7. Lévitique, chapitre 25, verset 1 au verset 7.
Lévitique, chapitre 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit.
Amen.
Verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel.
Verset 3. Pendant 6 années, ne te manqueras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vie. Et tu en recueilleras le fruit.
Amen.
Verset 4. Mais la 7e année sera un sabbat. Une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Sinon, ce ne sera pas ton champ.
Tu ne moissonneras point ce qui produira. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des graines tombées de ta moisson. Et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre.
Amen.
Ce que produira la terre pendant son sabbat nous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton excellent et à l'étranger qui demeure avec toi.
Verset 7. Et à ton bétail et aux animaux qui seront dans ton pays, tout son rapport servira de nourriture.
Amen. Ok, et puis le chapitre 26 du même livre. chapitre suivant, versets 33 à 35.
Verset 33. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes.
Alors, durant toutes les années où vous serez exilés sur vos ennemis, votre pays abandonné jouira d'un temps de repos en compensation des périodes de repos qui n'auraient pas été observées.
Verset 35. Tous les jours qu'il sera désolé, il se reposera parce qu'il ne s'était pas reposé dans vos sabbats pendant que vous y habitiez.
Amen. Ok. Jérémie, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25, versets 11 et 12. Jérémie, chapitre 25, versets 11 et 12.
Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant sa présence.
Amen.
Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles.
Amen. Ok, et finalement, Deux Chroniques, chapitre 36. Deux Chroniques, chapitre 36, versets 20 et 21.
Deux Chroniques, chapitre 36, verset 20 à 21, verset 20.
Amen.
Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse.
Amen. Donc voilà quelque chose de très intéressant. Ce que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'observer c'était de dans Lévitique ils devaient cultiver la terre pendant 6 années, n'est-ce pas? Mais la 7e année était une année de repos, le sabbat. Et brièvement, les enfants d'Israël n'ont pas observé ça. Deux Chroniques, n'est-ce pas? Et même Jérémie dit qu'ils n'ont pas observé ça. Et donc, quand ils ont été amenés captifs en Babylone, c'est à ce moment-là que la terre s'est finalement reposée. Pendant 70 ans. Sérieux? 7 fois 10, n'est-ce pas? Donc, 15, qui signifie la plénitude, n'est-ce pas? La terre s'est reposée. Et il y a un principe ici. Qu'est-ce que c'est que le sabbat? Le sabbat, n'est-ce pas, c'est le jour où Dieu s'est reposé. C'est-à-dire que Dieu a créé, n'est-ce pas, et puis, le septième jour, il s'est reposé. Il a été satisfait. Et donc, ça c'est devenu un commandement, n'est-ce pas? Quoi? Le quatrième, n'est-ce pas? Je pense que c'était le quatrième commandement. Tu observeras le sabbat, n'est-ce pas? Tu le sanctifieras. Qu'est-ce que c'est que le sabbat? Bon, pour le sabbat, pour nous c'est le repos, n'est-ce pas? Le sabbat, c'est souvent, nous avons cette pensée, et c'est vrai, Dieu s'est reposé. Alors, ça veut dire que nous devons nous reposer en Dieu. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu nous a donné, même dans la vie chrétienne, même notre poursuite de Dieu, notre exercice de suivre Dieu vient de Dieu, est donné par Dieu. Alors, d'une part, nous devons faire un effort, nous devons, n'est-ce pas, collaborer, nous devons jouer faire notre part pour chercher le Seigneur, pour, n'est-ce pas, courir après le Seigneur. Mais même nos efforts, même notre désir vient du Seigneur lui-même. C'est pas nous. Ça, c'est le principe du sabbat. N'est-ce pas? Alors, les jeunes, quand vous faites un examen, n'est-ce pas? Et vous réussissez à un examen, vous êtes très très content, vous êtes très heureux, n'est-ce pas? J'ai beaucoup étudié, j'ai étudié jour et nuit, j'ai passé des nuits blanches, et moi je suis le premier de ma classe, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous devez reconnaître, ce n'est pas vous, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous a donné cet art. C'est Dieu qui vous a donné ce succès. N'est-ce pas? Ça veut dire donc que je n'ai plus besoin d'étudier. Dieu, tout dépend de Dieu. Non, vous avez besoin d'étudier même encore plus. Mais c'est Dieu qui vous donne. Ça, c'est le sabbat, on peut dire. Le sabbat, c'est la cessation, c'est l'arrêt complet de tout travail, afin de reconnaître que tout ce que Dieu nous a donné, de tout ce que nous avons fait ou accompli ou accumulé, vient de la part de Dieu. Donc, j'arrête mon travail. J'arrête mon effort. Ça veut dire que je ne me fie plus à mon effort. Vous voyez, ça c'est le principe. Je n'ai plus confiance à mon effort. Mais j'ai confiance au Seigneur. Si nous pouvons apprendre cette leçon, nous serons saints dans la vie de l'Église. à tout ce que moi, en tant que frère, tout ce que je accomplis, tout ce que j'arrive à faire ou à, n'est-ce pas, à dispenser ou à toucher la vie de quelqu'un d'autre, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui l'a fait. Moi, je ne suis rien. Mais donc, voyez, venons à Lévitique chapitre 25. Voilà le l'arrangement de Dieu. 6 ans, vous allez cultiver la terre, vous allez semer, vous allez récolter, n'est-ce pas? Mais la 7e année, vous n'allez pas semer. Vous n'allez pas récolter pour vous-même. Tout ce qui pousse, ou tout ce qui pousse, tout ce qui est moissonné pendant la 7e année, ce n'est pas par... Ce n'est pas par l'agriculteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas par le cultivateur, mais c'est tous les produits de la terre pendant la 7e année est disponible à tout le monde, à tous ceux qui, n'est-ce pas, à l'étranger, à quoi, hein? Oui, à la veuve, oui, voilà. Mm-hmm. Servante, c'est ça, aux serviteurs, servantes, oui. Mm-hmm. Aux mercenaires, aux animaux, oui. Tout le produit servira de nourriture. Donc, la 7e année. Mais la 7e année ne peut pas exister sans les 6 premières années. Vous voyez, c'est un cycle. 6 années de travail, la 7e année de repos, et puis le cycle recommence. Et c'est très intéressant. Donc, ce que je vais vous partager, ça, c'était, et je vous le dis, c'était partagé par un frère, Titus. Frère Titus, il y a 2 ans, un frère que nous connaissons très bien, qui nous a beaucoup aidé. Il a partagé concernant Moïse, concernant le tabernacle, concernant les festivals. Ah, les fêtes, n'est-ce pas, les fêtes, la Pentecôte, n'est-ce pas, la Pâques, la Pentecôte, etc. Et il a appliqué cette portion de la parole qui m'a beaucoup touché. Il a appliqué à notre vie de l'Église. Et donc, je voudrais vous le partager. C'est pas moi qui ai pensé à ça. Ok, c'est pas, non. C'est un frère qui l'a partagé. Et donc, moi, je vais essayer de partager avec vous. Et ensemble, nous allons comprendre. Parce que moi, je ne comprends pas tout à fait moi-même. Donc, je suis honnête, n'est-ce pas? Mais ça m'a touché. Il y a quelque chose là que moi, je voudrais apprendre et je voudrais pratiquer. Parce que c'est intéressant que la captivité des enfants d'Israël en Babylone a permis à la terre de se reposer. Donc, n'est-ce pas, c'était une raison, une raison pour laquelle les enfants d'Israël ont été amenés captifs, c'est qu'ils n'ont pas observé ça. Ils n'ont pas fait attention à observer la septième année de repos. Donc ils ont été obligés d'aller en Babylone pour faire reposer la terre. Ok. Donc voilà. 6 années de travail, 6 dans la Bible, représentent normalement quoi? L'homme, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Ok. Donc, l'homme a, dans sa plénitude, c'est-à-dire une période complète, a 6 ans de semences et de récoltes, n'est-ce pas? Chaque année, il fallait semer et récolter. Ça veut dire que quand nous commençons notre vie chrétienne, comment est-ce que notre vie chrétienne commence? Elle commence avec une semence, n'est-ce pas? Quelque chose est semé en nous. Quelqu'un sème la parole, n'est-ce pas? Bien sûr, le Seigneur, c'est le Seigneur qui sème. N'est-ce pas? Souvenez-vous de la parabole du Seigneur. Un semeur est sorti semer. N'est-ce pas? La semence est tombée sur des terres différentes. Donc, Dieu sème. Mais, bien sûr, il sème à travers des hommes. N'est-ce pas? Des vases. Donc, quand nous avons entendu la parole, nous avons tourner notre cœur vers le Seigneur. Nous avons reçu la semence, la bonne semence, la semence incorruptible. N'est-ce pas? Pierre parle de ça. Vous avez reçu la semence incorruptible. Et cette semence commence à pousser. Alors, tout le monde, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, nous avons reçu la semence. Il y a quelque chose qui pousse en nous. Et cette semence doit être cultivée. Et comment est-ce que cette semence peut grandir dans la vie de l'Église? Il faut la vie de l'Église. Donc, si vous n'êtes pas dans les 6 années de travail, si vous n'entrez pas dans ce cycle, la semence ne va pas pousser bien. Ça c'est, la semence a besoin d'un environnement. La semence a besoin d'être arrosée, d'être quoi? D'être nourrie. Et la semence a besoin d'autres semences. Quand, n'est-ce pas, le blé pousse, il pousse avec d'autres, n'est-ce pas? Il ne pousse pas séparément. C'est une quoi? C'est un groupe, n'est-ce pas? C'est une ensemble. Ce ne sont pas des plantes isolées, mais des plantes ensemble. Donc, si vous êtes nouvellement sauvé, vous désirez le Seigneur, vous voulez croître, il faut la vie de l'Église. Il faut les autres frères et sœurs. Il faut se mettre dans la vie de l'Église. Sans ça, ce sera difficile de croire. À connaître le Seigneur, toucher le Seigneur, se connaître, être exposé pour connaître notre moi. Qui suis-je? Je ne suis pas quelqu'un qui est tellement bon. J'ai besoin d'être perfectionné. Vous allez trouver ça dans la vie de l'Église. Quand vous êtes avec les autres frères et sœurs, vous serez exposés. Le Seigneur peut vous illuminer que vous avez besoin d'être perfectionné. Vous avez besoin d'être touché. Je vous dis, ça c'est... vous devez vous placer dans ces 6 ans de cultivation. Oui. Surtout, vous êtes jeune, surtout avec ceux qui sont un peu plus âgés. Ceux qui sont un peu plus âgés, qui connaissent le Seigneur, ils vont vous aider à le connaître. Vous ne pouvez pas vous éloigner des frères et sœurs qui sont plus expérimentés, qui connaissent le Seigneur. Parce que eux, ils sont votre salut. Alors, il ne faut jamais dire « je suis indépendant ». Maintenant, je connais le Seigneur. Maintenant, je peux faire ce que je veux faire. Non, vous avez besoin d'être équilibré. Vous avez besoin, vous, n'est-ce pas, Dieu, un a besoin d'un autre. Un ne peut pas exister seul. Alors, si moi je suis un frère, j'ai besoin d'un autre. Vous êtes une sœur. Vous n'êtes pas une sœur individuelle. Seulement, vous avez besoin d'une autre sœur pour aimer le Seigneur, pour connaître le Seigneur ensemble. Ah, David avait Jonathan. On a parlé, on a vu ça, n'est-ce pas? Ah. David avait Samuel aussi, quelqu'un qui était plus âgé. Il avait Jonathan qui était son camarade, du même âge. Mais il avait Samuel à qui il pouvait aller quand il était en difficulté. Samuel était le salut de David, n'est-ce pas? Donc, il ne faut jamais être seul. Non, on a... Et parfois, ça peut arriver. On est dans la vie de l'Église, mais on est seul. Ben, il y a beaucoup de frères et de sœurs. Comment est-ce qu'on est seul? Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore relié à une autre sœur ou à un autre frère. Vous n'êtes pas encore lié. C'est-à-dire que il y a un lien général. Nous sommes tous frères et sœurs. Oui. Mais ça, c'est trop général. Où est le frère? Où est le sœur avec qui vous êtes attaché? À qui vous êtes attaché? Où est le sœur, la sœur ou le frère avec qui vous pouvez prier? Pour quoi que ce soit. C'est pas facile. Dans les réunions, on prie. Oui, mais les réunions sont précieuses, sont essentielles. Mais dans les réunions, souvent, on ne peut pas exposer son cœur. On ne peut pas... On ne peut pas... ouvrir, n'est-ce pas, ou mettre à présenter ce qui est dans son cœur. C'est trop privé, personnel, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a un frère, une sœur avec qui vous pouvez prier pour ce qui vous trouble, ce qui est dans votre cœur? Ça, c'est Je dirais que ça, c'est un compagnon. Est-ce que nous avons un compagnon? Vous voyez? Ah, mais nous sommes tous compagnons. Oui. Nous sommes tous ensemble. Et nous sommes ensemble tout le temps. Oui, et c'est vrai. Mais il doit y avoir aussi un rapport. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un à qui vous pouvez aller, quelqu'un en qui vous pouvez confier. Ce n'est pas une amitié, n'est-ce pas? Donc attention, c'est quelque chose de spirituel. Donc c'est pas pour aller chez quelqu'un pour faire des commérages. Non, c'est pour prier, peut-être pour lire la Bible, prier pour quelqu'un. Vous voyez, ça c'est les 6 ans de cultivation. Tout ce qui est semé en nous est cultivé, pousse. Il y a une récolte. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui est manifesté. Et ça, c'est la vie de l'Église. Donc, donnez-vous à la vie de l'Église. Si vous venez aux réunions de temps en temps, je vous dis, faites une décision de venir régulièrement, autant que possible. N'est-ce pas? Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à la vie de l'Église. Amen. Ne soyez pas un pas dehors et un pas, un pied dehors et un pied dedans. Mais rendez-vous compte de la valeur de la vie de l'Église. Parce que quand vous êtes venu, quand vous venez, vous touchez quelque chose. Alors, pourquoi pas venir plus régulièrement, n'est-ce pas, autant que possible. Pourquoi pas vous donner? Ça, c'est notre salut. 6 ans de travail, 6 ans de cultivation. Et apprécier la portion des autres frères et sœurs. Parce qu'ils sont là pour vous faire croître. Appréciez la portion, n'est-ce pas, des serviteurs du Seigneur. Alors, même les formations, les conférences, et je sais que vous faites un effort, donc essayez d'y assister. Parce que c'est là que vous pouvez être perfectionné. C'est là où, n'est-ce pas, Dieu peut nous parler. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez assisté à ces conférences. Donc, appréciez-les, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas encore assisté à une conférence à Accra, par exemple, ou à une conférence ici, à Abidjan, il faut essayer, il faut venir, n'est-ce pas? Vous obtiendrez beaucoup. Ça, c'est les 6 ans de cultivation. Amen. Sans ça, pas possible de croître. Il faut cette période. Hein. Mais la 7e année, ok, la 7e année vient après les 6 premières années. Sans les 6 premières années, il n'y a pas de 7e année. La 7e année, c'est une période de liberté, d'une certaine façon. N'est-ce pas? On ne cultive pas la terre pendant cette période, mais on laisse la terre sans la cultiver, ce qui est produit, il est là pour nourrir les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la septième année, c'est le temps de se développer. Développer ce que vous avez en vous pendant les six premières années. Ça veut dire, et ça c'est le principe du repos, que Dieu a œuvré en vous, il a semé quelque chose en vous, c'est lui-même, sa parole, n'est-ce pas? Et ce qu'il a semé en vous a besoin de se développer. Ça veut dire que nous qui sommes un peu plus âgés, ou nous qui sommes, on peut dire, un peu, nous qui connaissons le Seigneur un peu plus, nous devons permettre aux plus jeunes de se développer, de croître librement. Mais les plus jeunes, les jeunes, n'est-ce pas, ceux qui... quand vous êtes jeunes, vous devez être dans les six premières années. Vous devez être dans la vie de l'Église. Mais quand vous êtes dans la vie de l'Église, vous avez quelque chose du Seigneur. Ça doit se développer. On peut même comparer ça au talent, n'est-ce pas? Vous avez, le Seigneur vous a donné au moins un talent. Mais comment est-ce que vous savez quel est mon talent? Vous ne savez pas. Vous continuez dans les six premières années dans la vie de l'Église. Vous servez, vous participez, vous fonctionnez, n'est-ce pas? Vous êtes dans les réunions, vous lisez la parole. Quand il y a un besoin, vous vous donnez, vous prêchez l'Évangile, vous servez les enfants, peut-être, si ça c'est, n'est-ce pas? Vous vous occupez des autres frères et sœurs. Toutes sortes de moyens de servir, vous vous donnez. Mais la septième année, c'est là où vous commencez à connaître votre portion. Il y a une manifestation. Et ceux qui sont plus âgés, eux aussi, ils doivent apprendre à vous permettre de vous exercer. C'est pas facile. Hier, je vous ai parlé de mon expérience à Montréal, n'est-ce pas, avec les jeunes. Les jeunes qui maintenant commencent à croître. Ils peuvent lire la Bible. Et ils peuvent aussi trouver quelque chose dans la Bible qui les touche. C'est pas facile de lire la Bible et que le Seigneur puisse nous parler dans la Bible. Pas facile. Tout le monde peut lire la Bible. Et beaucoup de gens peuvent lire la Bible pour avoir de la connaissance, apprendre beaucoup de choses. Mais peu sont ceux qui lisent la Bible et que le Seigneur leur parle et change leur vie. Ça, c'est autre chose. N'est-ce pas? Alors, quand les jeunes lisent la Bible et ils expliquent les versets, on leur demande, ok, et alors? Bon, et alors? Ça veut dire, donc, comment est-ce que ça t'a changé? Quel effet est-ce que la parole a eu sur toi? Oui, tu peux expliquer les versets, tu peux, ça c'est la première chose, tu peux réciter les faits. Mais, et alors? Et maintenant, il commence à s'habituer à lire la Bible et à appliquer la Bible à leur vie. N'est-ce pas? Donc, eux-mêmes, maintenant, ils sont capables d'avoir leur propre réunion. Et nous, n'est-ce pas, ceux qui sont plus anciens, plus âgés, je veux dire, nous qui sommes plus âgés, nous devons apprendre à leur donner la septième année, à leur donner la liberté de se développer. La septième année, ça veut dire que nous retirons nos mains. Bon, nous sommes toujours là, oui, n'est-ce pas? Mais nous leur permettons de s'exercer, de trouver le Seigneur, de chercher le Seigneur, de trouver le Seigneur, de faire des erreurs, même, n'est-ce pas? Autrement, ils ne vont pas se développer. Parce que si vous avez toujours quelqu'un d'autre à qui vous pouvez demander, mais comment est-ce que je prêche l'évangile à mon camarade? Il est une certaine sorte de personne, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux lui prêcher l'évangile? C'est bien de demander aux frères qui sont plus âgés, n'est-ce pas? Mais à un certain moment, vous, à votre école, vous êtes là. Personne ne peut vous dire quoi dire. C'est entre vous et le Seigneur. On peut vous conseiller, on peut vous suggérer, on peut prier avec vous. Ça, c'est les 6 premières années. Et vous avez besoin de ça. N'est-ce pas? Pour vous équiper, pour vous fortifier, pour vous-même donner le fardeau de l'évangile, que je dois parler à mes amis de Jésus-Christ. Mais à un certain moment, vous êtes là, à l'école, dans la cafétéria, avec votre ami, à table, et il vous demande, il vous dit quelque chose comme, « Ah, mais pourquoi tu es différent ?» Qu'est-ce qui est... Comment est-ce que tu es différent? Pourquoi est-ce que tu es différent? Qu'est-ce que vous allez dire? Ça, c'est à vous. Ça, c'est pour votre développement. Vous et votre ami. Et personne d'autre. Parce que le Seigneur vous a placé dans votre école, n'est-ce pas? Pour témoigner. Si ce n'est pas vous, qui va témoigner? Donc, c'est à vous de vous développer. C'est à vous de croître. N'est-ce pas? Ah, il y a mon soukro, n'est-ce pas? Il y a des sœurs, il y a des... Oui. Les frères ici, ils peuvent vous visiter. N'est-ce pas? Oui. Bien sûr, mais pas toutes les semaines. Et vous aussi, vous venez, n'est-ce pas? Mais c'est quand même 2h30. Et donc, et vous devez venir, oui, pour être fortifié, pour être équipé. Et ça, c'est les 6 premières années de cultivation. Mais éventuellement, vous êtes à Yamoussoukro, il y a certains qui sont à Divo, n'est-ce pas, et d'autres qui sont à Korogo, n'est-ce pas, qui est encore plus loin, n'est-ce pas, oui. Vous êtes à Korogo, oui, voilà. Donc, on peut dire que le terrain est à vous, n'est-ce pas? C'est à vous de le développer, n'est-ce pas? Et en le développant, vous vous développez, n'est-ce pas? Vous allez croître. Comment le faire? Vous devez chercher le Seigneur, n'est-ce pas? Vous devez connaître le Seigneur. Ce ne sera pas facile. Mais c'est cette septième année qui nourrit tout le monde. Tout le monde peut en jouir. C'est le repos. Ça veut dire que vous commencez à connaître le Seigneur vous-même. Vous commencez à connaître l'opération du Seigneur vous-même. Dans la vie de l'Église aussi, vous le connaissez. Mais le repos, c'est quand vous sortez de votre niveau de confort, votre niveau de d'aise pour faire face à une situation où vous devez chercher le Seigneur. Et ça, c'est le repos. Le repos, ça ne va pas dire que je ne fais rien. Non. non, je pense que ça, c'est clair, n'est-ce pas? Non, le repos, c'est pas que... C'est pas, je prends ma retraite et je m'endors. Et j'ai... Merci Seigneur pour ce repos. Une année de repos. Non. Non, le repos... Le repos, c'est de cesser. Pas de cesser, ok. De prendre ce que le Seigneur a œuvré en moi et de l'exécuter, de le pratiquer en le cherchant. En cherchant le Seigneur. Parce que je ne sais pas comment le faire. Dans un certain environnement, on peut savoir quoi faire. Par exemple, ok, je vous donne un exemple, n'est-ce pas? Un frère vient ou... Non, c'est... Par exemple, vous avez une conférence. Comment prêcher l'Évangile? Et ça, c'est très utile. Comment prêcher l'Évangile? N'est-ce pas? Ou même à Accra. N'est-ce pas? Quand vous êtes allé à Accra, Frère Caleb, n'est-ce pas? Et Andy, n'est-ce pas? Ils ont donné, je pense, n'est-ce pas? Ils ont parlé de l'Évangile. Et vous avez besoin de ça. Et je ne sais pas ce qu'ils ont partagé, bon, mais le fardeau de l'Évangile. Pourquoi prêcher l'Évangile? N'est-ce pas? Si je ne prêche pas l'Évangile, mes amis, les membres de ma famille, ils vont périr. Ils vont passer une éternité sans Dieu, sans le Seigneur. Bon, ça c'est une, n'est-ce pas, c'est une chose, n'est-ce pas, qui... autre chose, j'ai un devoir de prêcher, une dette. Bon, ainsi de suite. Mais vous apprenez, vous, comment, pourquoi prêcher l'Évangile? Et ensuite, comment prêcher? N'est-ce pas? Quels sont les moyens? Quelle est notre attitude en prêchant l'Évangile? À qui est-ce que nous devons prêcher l'Évangile? Voilà, je pense à des choses comme ça. Ça, c'est la conférence, n'est-ce pas? La formation. Ça, c'est les 6 premières années. N'est-ce pas? Oui, il faut ça. Mais finalement, vous rentrez et vous êtes face à face avec un ami, n'est-ce pas, à l'école, ou une voisine, n'est-ce pas, à côté de vous. Vous avez besoin du Seigneur. Tout ce que vous avez appris va vous aider. Mais vous avez besoin vous-même de connaître le Seigneur face à face et de dispenser, de, n'est-ce pas, d'ouvrir la bouche, de libérer quelque chose, dispenser quelque chose qui peut aider. Ça, c'est la 7e année. Ça, c'est le repos. Le repos, c'est quoi? C'est la confiance au Seigneur. Pas la confiance en ce que moi j'ai appris, bien que j'ai besoin de ça. Pas confiance en ce que moi j'ai, n'est-ce pas, j'ai pratiqué, mais j'ai besoin de ça aussi. Mais la confiance au Seigneur lui-même pour que je puisse me développer et que tout le monde puisse être nourri. Vos amis seront bénis, n'est-ce pas, en connaissant le Seigneur. Nos voisins, nos collègues au travail. Qui va prêcher l'évangile à eux? C'est vous. Dieu vous a placé là. N'est-ce pas? Donc, le terrain, n'est-ce pas, est libre d'être... Ah, et il y a la liberté. Il y a la liberté de se développer. Mais après la septième année, le cycle recommence. Ça veut dire que tout ce que vous développez n'est pas pour vous-même, mais c'est pour l'Église. C'est, donc, vous devez rentrer, n'est-ce pas? Vous devez refaire, vous devez vous redonner aux six prochaines années. Vous voyez, le cycle continue. C'est pas que maintenant je suis prophète tel ou tel, mais maintenant j'ai mon propre ministère et je vais m'en vais, n'est-ce pas, Dieu ou évangéliste tel ou tel. Non, tout ce que vous avez développé est pour la vie de l'Église, c'est pour les autres frères et sœurs. N'oubliez jamais que la raison pour laquelle vous avez pu vous développer est à cause des autres frères et sœurs. Et à cause de ce frère-là ou de cette sœur-là, peut-être plus âgée ou même moins âgée, ça dépend, qui m'a aidé, qui m'a accompagné, qui m'a perfectionné. Voyez, on ne peut jamais oublier. Donc, ça ne veut pas dire qu'on devient indépendant. Et je suis libre de faire ce que je veux parce que le Seigneur m'a donné quelque chose. Oui, il vous a donné quelque chose pour que vous puissiez le développer, mais ce n'est pas pour vous-même. C'est pour les autres. Même la septième année, tout ce qui est produit, la récolte, est pour les autres. Voyez. Mais vous avez une certaine liberté, n'est-ce pas? Mais vous devez vous rendre compte que cette liberté n'est pas pour moi-même, mais c'est pour l'Église. Donc, nous rentrons à la prochaine, au prochain cycle de 6 ans. Donc, ça se répète. 6 années encore. Voyez. Donc, vous allez voir. Par exemple, ok, exemple. Vous prêchez l'évangile à un ami à l'école, au lycée, n'est-ce pas? Et il accepte le Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il est sauvé. Quelle est la prochaine étape? Ben, vous cherchez le Seigneur, n'est-ce pas? Supposons que vous voulez l'inviter à venir aux réunions parce qu'il a besoin de connaître la vie de l'Église. Il faut chercher le Seigneur. Peut-être que vous et votre compagnon, ou vous amenez un autre frère ou une autre sœur pour, n'est-ce pas, à encourager, l'encourager à venir. Ça veut dire que ce que vous avez développé, vos fruits ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que, oui, ce sont vos fruits, mais vous devez ouvrir, n'est-ce pas, aux autres membres du corps pour vous occuper de quelqu'un. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'êtes pas capable de tout faire. Vous avez besoin des autres. Et ça, c'est le principe des 6 premières années. Quand vous aviez besoin des uns des autres, même dans la 7e année, vous avez besoin les uns des autres, n'est-ce pas? Donc, ce qui est produit, ce qui est récolté dans la 7e année, vous l'amenez, n'est-ce pas? Vous le ramenez à l'église pour recommencer le nouveau cycle. Ça, c'est notre salut, n'est-ce pas? Vous voyez le principe du sabbat? Le sabbat, ce n'est pas que Dieu fait tout et moi je ne fais rien, ni je fais tout et Dieu ne fait rien. Mais ça nous savons. Mais souvent nous pensons, ah, Dieu va faire tout, moi j'observe le sabbat. Non, le sabbat, la 7e année est peut-être l'année la plus active, mais c'est l'accent change, n'est-ce pas, de ce que moi je peux faire, ce que moi je sais faire, de ce que moi j'ai appris les 6 premières années. L'accent maintenant change à comment est-ce que je peux développer? Comment est-ce que je peux avancer? Comment est-ce que je peux toucher un terrain nouveau? Un nouveau terrain ou un nouveau défi? Être dans une situation différente où j'ai besoin de chercher le Seigneur, où je n'ai plus confiance en ce que moi je sais faire, mais j'ai besoin de me confier au Seigneur. Voyez, et ça c'est le repos. Donc, pour revenir un peu au peuple de Dieu, enfin, ok, les enfants d'Israël, ils avaient confiance en eux-mêmes. Ils savaient, comme on a dit, ils savaient quoi faire. Ils avaient tout. Le temple, les sacrifices, les holocaustes, la loi, les sacrificateurs, n'est-ce pas? Ils avaient la façade, ils avaient tout. Et donc, ils ont continué. Mais ils ne se sont pas fiés au Seigneur. Donc, ils ont travaillé, ils ont répété, ils ont, n'est-ce pas, mais ils n'ont pas joui du repos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu le Seigneur lui-même. Et voilà la raison pour laquelle ils ont été amenés en captivité. Donc, méfions-nous de savoir quoi faire. Et en même temps, méfions-nous de la crainte de faire des erreurs. Parce que on peut tomber dans l'autre extrême. Je ne sais pas quoi faire. Alors, tout ce que je fais, je vais faire des erreurs. Je vais... Non. Cherchez le Seigneur. Même vous faites des erreurs. Vous prêchez l'évangile, votre ami rejette l'évangile, il ne s'y intéresse pas, n'est-ce pas? Mais vous continuez à chercher le Seigneur. Vous continuez à prier. C'est ça là, la septième année, le repos. Mais n'oubliez jamais votre source. N'oubliez jamais votre source. Comme Paul le dit, n'est-ce pas, à Timothée, n'oubliez jamais ce de qui vous avez appris. D'une part, il encourage Timothée à se développer. N'est-ce pas, il dit, ne méprise pas ta jeunesse. N'est-ce pas? Non. Que personne ne méprise ta jeunesse. N'est-ce pas? Il instruit Timothée de rester à Éphèse. De, n'est-ce pas? De quoi? D'ordonner, n'est-ce pas? À ceux qui, à certains, de ne pas enseigner différemment. Voyez? Il exhorte Timothée à être courageux, n'est-ce pas? Mais en même temps, il le rappelle de ne pas oublier de qui il a appris. Même à la fin de la vie de Paul, il peut dire qu'il n'y a personne qui est du même sentiment que moi, sauf Timothée. Ça veut dire que Timothée était intimement lié avec Paul. Paul lui a donné beaucoup de liberté, encouragement de se développer, n'est-ce pas? De continuer l'œuvre qui a enseigné aux autres, n'est-ce pas? Que eux aussi, ils puissent être fidèles à enseigner à d'autres. Voilà. Mais à la fin de la vie de Paul, Paul peut écrire à Timothée dans sa dernière lettre, ne t'attarde pas, n'est-ce pas, viens vers moi, n'est-ce pas, avec, apporte quoi, le manteau, oui, et, mais surtout le parchemin, n'est-ce pas. Ça veut dire que le rapport entre Timothée et Paul ne s'est jamais coupé. Timothée s'est toujours rappelé, s'est toujours souvenu de son père spirituel, n'est-ce pas? Donc, souvenons-nous de notre source, toujours. Tout ce que nous faisons dans la vie de l'Église, tout ce que nous développons, oui, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Mais n'oubliez jamais que ce qu'il nous a donné est venu à travers un vase. A été dispensé par des vases. N'est-ce pas? Des frères et des sœurs qui nous ont aimés, qui ont eu un fardeau pour nous, qui se sont investis en nous, qui ont même donné leur vie pour nous, pour que nous puissions être élargi, pour que nous puissions croître. Alors, il y a les deux côtés, n'est-ce pas? Mais les deux côtés vont ensemble. Ils ne sont pas exclusifs, n'est-ce pas, l'un de l'autre. Non. Les six années n'est-ce pas, se réalisent dans la septième. Et puis la septième passe, n'est-ce pas, à la première du prochain cycle. Et ça continue comme ça. Voilà un peu, n'est-ce pas, le fardeau que, n'est-ce pas, le frère a partagé. C'est vraiment très applicable. Ça s'applique à nous, à notre situation, à ma situation. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça depuis ce temps-là. Comment est-ce que, n'est-ce pas, comment est-ce que dans ma vie je peux donner la liberté aux autres, à ceux qui sont plus jeunes, de se développer. Pas facile. Parce que on veut toujours s'accrocher à ce que le Seigneur m'a donné. Vous voyez, on a touché ça hier, n'est-ce pas? On a touché ça hier. Jéroboam en moi. On va toujours s'accrocher. Mais est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, relâcher? On peut permettre aux autres de se développer, hein, de servir selon le Seigneur. Mais en même temps, ceux qui sont, qui ont la liberté, n'est-ce pas, ceux qui se développent, est-ce que vous pouvez vous souvenir de des frères et des sœurs de qui vous avez appris, n'est-ce pas, tout ce dont vous jouissez, c'est pour l'Église, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'avancement du Seigneur et rien pour nous-mêmes, rien pour nous faire un nom, n'est-ce pas, voilà, ça c'est mon fruit. Ça c'est, n'est-ce pas, ça c'est le frère ou la sœur que j'ai amené au Seigneur. C'est mon fruit, ne le touchez pas. Non, le fruit, n'est-ce pas, est pour l'Église. En même temps, moi, en tant que frère, je dois reconnaître un frère qui a amené quelqu'un au Seigneur. C'est lui qui l'a amené au Seigneur. Moi, je n'ai pas amené au Seigneur. Alors, je ne peux pas dire que moi, je l'ai amené au Seigneur. Non, je dois reconnaître. Ça, c'est sa portion. C'est ce frère-là ou cette sœur-là qui a prêché l'Évangile. Ce n'est pas mon fruit. N'est-ce pas? Moi, je ne peux prendre aucune... Je ne peux pas me vanter. Ah! Ça c'est, donc, c'est mon fruit, donc j'ai beaucoup de fruits. Parce que, et je n'ai pas œuvré, je n'ai pas prêché l'Évangile, mais je jouis du fruit de tout le monde. Non, je ne peux pas dire ça. Vous voyez? Donc il y a toujours les deux côtés. Mais celui qui a œuvré, qui a prêché l'Évangile, son fruit-là, c'est pour l'Église. Et donc il doit y avoir la liberté, n'est-ce pas, de s'occuper de cette personne. Peut-être que moi j'ai prêché l'Évangile, mais un autre frère, il sait comment s'occuper de ce frère. Alors, est-ce que moi je suis élargi pour permettre à un autre frère de venir s'occuper de mon fruit. Vous voyez? Dans la vie chrétienne, il y a toujours deux côtés. N'est-ce pas? Il y a toujours deux côtés. Moi, je dois œuvrer. Moi, je dois collaborer. Je dois être fidèle. Mais c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui... Tout est à cause de Dieu. Donc, je n'ai aucun droit de réclamer. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Donc, c'est pour l'Église. C'est pour tous les frères et les sœurs. Amen. pardon.